terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Vous le savez, et c'est ça qui est agréable à Montréal, plus largement au Québec, et encore beaucoup plus largement au Canada, c'est que nous sommes une société, il y a des gens qui n'aiment pas le terme, quand on dit multiculturel, là, soudainement, ils ont des moutons. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on trouve plusieurs cultures, des gens venant d'horizons divers, c'est une terre d'accueil, voilà la vraie définition du terme. Et on parle beaucoup de certaines communautés, il y en a qui font plus de bruit que d'autres. Quand je dis bruit, je le dis gentiment, on se comprend. Mais il y en a aussi discrètes, mais sont de plus en plus présentes. C'est le cas notamment de la communauté ou des communautés issues des Antilles françaises. Donc, une fois que j'ai dit Antilles françaises, vous comprenez qu'on parle de personnes qui parlent français comme langue officielle ou langue de communication, même si, attention, je sais de quoi je parle et je fais attention dans mes mots, il y a quand même une langue qui est utilisée, qui est le créole. J'entends ici la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. À l'époque, on parlait des dom-toms, mais ça changeait. Maintenant, on dit les collectivités d'outre-mer. C'est plus soft. Mais tout ça veut dire la même chose. Donc, ces communautés, justement, sont de plus en plus présentes ici à Montréal. On parlait tantôt de la France et de sa relation avec les anciennes colonies, notamment ce qui se passe en Afrique. Tout comme elle est au centre des relations avec les collectivités. Si vous voyez une Guadeloupéenne, la première des choses, vous dites « Ah, t'es France, dites-lui « Ah, t'es Guadeloupéenne ». Voilà. Française, oui, c'est par étapes, ça je vous préviens. Et c'est le cas de celle que j'ai en face de moi, Michel Martineau, bonjour.
Bonjour, Cyril.
Merci. Mais tu n'as pas arrêté de rire quand j'ai dit... Oui, non. Non, parce que ça a été important, c'est Guadeloupéenne, oui. Française, oui, mais je suis de la Guadeloupe.
Oui,
voilà,
oui.
C'était important. Michel, tu es doctorante en sciences politiques ici à l'université... de Montréal.
L'Université de Montréal.
L'Université de Montréal.
J'ai étudié à l'UQAM.
Oui, mais là maintenant, c'est à l'Université de Montréal avec des thèmes, évidemment, colonisation, et qui ne va pas sans son contraire, la décolonisation, l'identité. Et d'ailleurs, tu es éditrice d'un blog, Identité Caraïbes. Les amis qui m'écoutaient, allez sur Instagram et allez chercher Identité Caraïbe, donc Caraïbe au pluriel. Vous allez chercher cet Instagram-là, ce compte-là, je vous dis, il est... je le dis publiquement, je te le dis, bravo.
Merci.
Est beau, il est... C'est-à-dire que pour un blog, du moins, le compte Instagram d'un blog d'information, de publication historique, intellectuelle et tout ce qu'on veut, il est magnifique. Moi, je vous dis, je suis jaloux de ce blog. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ton blog. Non, on est là pour parler de cette relation. Tu es à Montréal depuis combien d'années déjà?
Le 31 août, ça a fait 8 ans.
Ok.
Exactement. Ah, ouais.
Donc, j'ai en face de moi une Montréalaise.
On va dire
voilà.
Ça comme ça, oui.
Mais qui a choisi comme centre d'intérêt, la Guadeloupe, la Caraïbe, avec justement cette question de colonisation, décolonisation, identité. Pourquoi?
Alors, je le dis souvent, de base, je ne m'intéressais pas du tout au cas de la Guadeloupe, donc, dont je suis issue. C'est en arrivant ici et en faisant mes études que j'ai trouvé un intérêt de parler de mon île, de mon archipel. Et ça a commencé en fait avec quand j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise. Je voulais chercher un sujet, j'étais très portée, c'est toujours le cas, je suis très portée par tout ce qui concerne les questions nationales, le nationalisme, l'identité, etc. Et je me remémorais un peu les conversations que j'avais avec mes parents et du fait qu'ils me disaient qu'à une certaine époque, surtout dans les années 80, il y avait des groupes indépendantistes qui demandaient une souveraineté pleine et entière en Guadeloupe. Chose qu'on m'a jamais appris à l'école. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant, en fait, de s'attarder là-dessus. Et donc, mon mémoire de maîtrise traite de la départementalisation et de la question nationale en Guadeloupe de 1950. Donc, la naissance jusqu'à 1990, donc on va dire la fin des activités, je dirais, armées de certains groupes. Mmh. Et ça, en fait, ça a éveillé en fait une conscience déjà sur le plan intellectuel, parce que ben, j'ai appris énormément de choses, et d'un point de vue identitaire, parce que j'étais en train de combler ce manque qui, mine de rien, m'a été imposé de par l'éducation que j'ai reçue. Et donc, en faisant ce travail de recherche, en fait, je me suis dit, il serait important de creuser encore deux fois plus, non seulement dans le but, ben, moi, de continuer d'alimenter cette curiosité intellectuelle que j'avais, mais aussi, c'était une façon aussi pour moi, de par le blog, de partager mes connaissances, mes trouvailles avec le public. Et donc, dans une volonté de vulgariser au mieux les recherches et les articles que j'avais trouvés, quoi. Donc, c'était ça.
Mmh. Parce que je l'ai dit, et moi, l'intérêt aussi qu'il y a derrière, c'est le fait que, justement, il y a de plus en plus, parce qu'on parle beaucoup, lorsqu'on parle des communautés, pour que les gens comprennent un peu, lorsqu'on parle des communautés noires francophones, par exemple, qui vivent à Montréal, on va dire, il y a les Haïtiens, il y a les Africains, comme on globalise, mais on oublie,
oui.
On oublie les Caribéens. Mm-hmm. Et alors qu'aujourd'hui, ils sont là, mais en plus avec une spécificité qui est complètement... C'est pas Haïti, c'est pas l'Afrique. Les Caribéens, donc de l'archipel dont je parle là, de Guadeloupe, Martinique, Guyane et tout, ont quand même une spécificité. Est-ce que ce mouvement... D'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même une présence de plus en plus nombreuse?
Oui, oui. Ça, c'est notamment du fait que ben il y a de plus en plus de jeunes Guadeloupéens, Guadeloupéennes, Martiniquais, mm-hmm. Guyanais qui viennent ici au Canada.
La preuve, il y a eu un croisement avec une Martiniquaise qui sortait du Tilouet, c'est ça. Aujourd'hui, c'est spécial Caraïbes.
Oui. Et donc, ils viennent ici pour étudier principalement. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à Montréal en 2015. Après, c'est vrai qu'il y a des questions liées à le travail, ce genre de choses. Mais c'est vrai que de plus en plus, et c'est quelque chose que j'ai observé, qu'il y a de plus en plus d'Antillais francophones qui viennent ici à Montréal. Et mine de rien, ça fait plaisir parce que, bon, au début, je me sentais un petit peu...
Seule.
Oui, seule. Mm-hmm. Et là, je vois que la communauté est de plus en plus importante. Donc, c'est toujours du bon à voir. Mais en même temps... Ça me fait réfléchir à quand même quelque chose. Il y a une fuite de l'intelligentsia, en fait, au niveau de nos territoires.
OK.
C'est-à-dire que moi, j'ai quitté la Guadeloupe pour Montréal dans le sens où je ne trouvais pas de travail. À l'époque, j'avais déjà un master, donc une maîtrise en droit public que j'avais obtenue en Guadeloupe. Et on m'a dit tout simplement que vous êtes surqualifié, vous ne pouvez pas rester sur l'archipel. Ouais, donc, il fallait partir.
OK. Mmh.
Je ne me voyais pas aller en France, je voulais vraiment avoir une expérience à l'international et donc j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études à Montréal. Mais malheureusement, ce destin a été choisi par beaucoup de mes compatriotes, soit parce qu'ils en avaient envie ou soit ils n'avaient pas le choix en fait.
Mais alors voilà la question, Michel, pourquoi quand tu dis je ne voulais pas aller en France, pourquoi? Parce que on entend de plus en plus ce discours-là.
Ouais.
Je ne veux pas aller en France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre la France et la collectivité et la terre Guadeloupe? C'est comment on dit la Guadeloupe? Il y a un autre nom pour dire la Guadeloupe encore.
On dit Carriquera.
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ou alors Guada.
Oui, Guada.
Guada, ouais, c'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Alors.
Amour déçu?
Est-ce que c'est s'il y avait de l'amour? Oui, à titre personnel, okay. Parce que j'ai eu l'occasion de m'y rendre en 2011. Et franchement, je n'arrivais pas à me projeter. Et sachant que moi, je voulais absolument avoir cette expérience à l'international. Alors, on m'a dit après que oui, je pouvais aller à l'université de West Indies, donc à Trinité Tobago. Mm-hmm. Chose que j'ai pensé après, mais voilà. Mais j'ai toujours eu vent que Montréal était la ville universitaire où on savait qu'on pouvait... acquérir un maximum de connaissances, d'avoir des diplômes qu'on ne pourrait pas trouver forcément en France et autres, et d'avoir cette expérience où je sais que je suis sur une certaine province francophone, mais je me trouve à 6 heures de New York, je me trouve à 6 heures de Toronto. Voilà, j'ai cette facilité quand même d'avoir la possibilité de pratiquer mon anglais, mais aussi de faire partie, d'être mélangée avec ces populations venant de différentes ethnicités, nationalités.
Est-ce que en France, si tu étais en France, est-ce que ton centre d'intérêt aujourd'hui, intellectuel, de recherche et tout, est-ce que tu penses que là-bas, tu aurais eu la même liberté pour aborder ces questions-là? Non. Donc, quelque part, ça joue aussi sur...
Et ça, je l'ai compris quand j'ai rédigé mon mémoire. Je me suis dit que j'ai cette facilité de dire que voilà, à partir de telle année, il y a une politique néocoloniale qui s'est installée et qui continue de perdurer. Je ne sais pas, à l'heure actuelle et au vu de l'actualité à laquelle on est en train d'assister, si j'aurais eu cette possibilité et cette facilité de dire tout cela. Donc, je suis consciente aussi que d'être sur le territoire du Canada, notamment Montréal, qui est certes aussi chargé en termes d'histoire liée à la colonisation, etc., j'ai quand même cette chance-là de pouvoir m'exprimer librement et donc de dire, par le biais de la littérature et de mes recherches, que voilà, il y a telle et telle situation qui se déroule en Guadeloupe.
D'accord. Tu as parlé donc un peu sur le plan personnel, la raison. Je veux parler de manière collective. Bon, je sais, j'ai suivi quand même quelques quelques faits historiques entre la relation Guadeloupe et voire même les autres îles, hein, mais entre la Guadeloupe et la France. Jusqu'à quel point aujourd'hui, en 2023, le désir nationaliste, si je peux le dire comme ça, je ne dirais pas est poussé. Et encore une fois, dans mes questions, on se comprend.
Oui.
C'est-à-dire que il y a une volonté de décolonisation, par exemple.
Pour certains.
Pour certains, voilà. Mais la décolonisation, jusqu'à quel point?
Alors, c'est une question très intéressante, puisque actuellement, notamment en Guadeloupe, on parle beaucoup de d'évolution institutionnelle. On ne parle pas d'évolution statutaire, bien que ça rentre aussi dans le débat. Mais il y a de plus en plus de personnalités politiques qui demandent à avoir ce qu'on appelle une domiciliation des pouvoirs. Donc, un peu plus d'autonomie, notamment pour prendre des décisions en ce qui concerne la vie politique et économique de l'archipel. Venir à parler de décolonisation, et je parle de décolonisation ordinaire, donc, c'est-à-dire qu'on arrive au stade de l'indépendance. Certes, il y a des mouvements comme je pense à l'ANG, il y a encore l'UPLG, même si ce sont encore des partis, voilà. Donc, ils commencent à quand même rassembler une certaine tranche de la population. Mais il est clair qu'actuellement, venir à parler, ne serait-ce que déjà d'autonomie, comme disait mon ancien professeur de droit constitutionnel, Pierre-Yves Chicot, c'est l'antichambre de l'indépendance. Donc, la population, elle est encore réticente à se dire que si on va vers l'autonomie, on va accorder plus de pouvoir aux personnes issues du pouvoir politique, sachant aussi qu'il y a une réticence, une méfiance de la population envers la classe politique, suite à de nombreuses affaires qui ont perduré pendant des années.
Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, hein. On trouve ce décalage un peu dans plusieurs régions. Ouais. Non, on le trouve en tout. Je veux juste faire une petite illustration parce que peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Du moins, quand on parle, je veux dire ici, par exemple, à Montréal, c'est-à-dire qu'on parle d'un territoire qui est à des milliers de kilomètres de la France. Et d'où les décisions sont prises sur des populations qui vivent justement aussi loin. C'est est en 2023, je ne sais pas si les gens comprennent de quoi on parle. C'est un peu comme si on était le Canada. Bon, on va dire la même chose, mes amis justement qui veulent abolir la relation entre le Royaume britannique et le Canada et le Québec, voilà, ils pensent aussi pareil. C'est-à-dire que ça vient de loin, même si ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, mais c'est ça, c'est ce sentiment là un peu qui grandit. Les nouvelles générations sont beaucoup plus
Au chevet, oui.
Oui, au chevet, oui, oui. Ouverte vers cette autonomie, peut-être, oui. Souveraineté, mais sont beaucoup plus, ont besoin.
Oui, ouais. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai observé vers 2019 et surtout à partir de 2020-2021, notamment lors des émeutes qu'il y a eu en Guadeloupe suite à la question de l'obligation vaccinale. Où en fait,
par
rapport à cela, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis des années, qui sont revenus sur la table des discussions. Donc, question de vie chère, problème d'accès à l'eau, électricité, etc. Enfin, énormément de problématiques. Et il disait justement, la population, et notamment au niveau de la jeunesse guadeloupéenne, que si on avait une certaine autonomie, on n'aurait pas, par exemple, laissé les touristes rentrer librement sur le territoire, les cas n'auraient pas augmenté, etc. Donc, si on avait notre propre gestion sur certaines affaires locales, on aurait été plus en mesure de s'affirmer, d'affirmer notre identité et de s'affirmer en tant que peuple par rapport au pouvoir central, donc la France.
Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
Alors, parlons d'identité caraïbe.
Oui.
C'est quoi?
Identité Caraïbe, c'est un blog qui est né le 27 mai 2020. Le 27 mai qui correspond à la date d'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Mm-hmm. Et en fait, j'ai voulu créer ce blog dans l'optique de parler de tout ce qui concerne les questions nationales, ethniques et identitaires de la région Caraïbe, de sa diaspora. Dans le but de vulgariser, donc moi, toutes mes connaissances scientifiques et donc de donner cet accès au grand public, que ça soit au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, mais aussi au niveau des îles anglophones. Parce que j'ai eu ce sentiment à titre personnel, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui se trouvent là-bas, que bon, oui, on est sur notre territoire, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à côté. Par exemple, Saint-Domingue, Haïti, se trouve à 2 heures d'avion de chez nous. La Dominique se trouve à 4 heures de... Non, à 2 heures de bateau. Et pourtant, il y a des choses qui se passent, qui se déroulent. Et le fait de revenir sur des points importants qui ont eu lieu il y a de ça quelques années ou même qui se déroulent actuellement, c'est une façon pour moi justement de dire, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Par exemple, dans les relations internationales, j'ai remarqué qu'on a souvent tendance à mettre de côté la région Caraïbe. Et pourtant, la région Caraïbe reste un point stratégique au niveau des relations internationales, etc.
Dans quel sens?
Au niveau des territoires, au niveau, comme je l'ai dit, géostratégique. Je pense, d'un point de vue historique, je me rappelle... Au temps de la Seconde Guerre mondiale, la Guadeloupe a failli être sous protectorat américain, puisqu'on intéressait les Américains à un moment donné. C'est la France qui a bataillé pour garder ses territoires. Et donc, par la suite, on est devenu département français en 1946. Je pense également à Cuba. Ça, il faut le dire aussi, parce que, mine de rien aussi, durant justement les années 60-70, on a certains groupes indépendantistes guadeloupéens qui étaient très...
Mais il y a un ensemble politique des Caraïbes qui existe, non?
Il y a la CARICOM.
Oui, la CARICOM.
Il y a l'OECE, donc l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, je crois.
Oui.
Donc, c'est des petites organisations comme ça, mais dans ce cas-là, la Guadeloupe et la Martinique... peuvent rentrer en tant que membre associé. Par exemple, la Martinique est rentrée en tant que membre associé au sein de la CARICOM le mois dernier. Pour la Guadeloupe, on attend toujours. Mais être membre associé,
ça fait pas membre plein, en fait.
Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore cette difficulté pour les territoires francophones, donc les départements et collectivités d'outre-mer, de marquer une certaine singularité. Donc, déjà par rapport à la France, et bien aussi de s'allier avec leurs partenaires de la Caraïbe, puisque, bon, il y a certaines choses qui demandent l'aval du pouvoir central. Ici, la
et
France,
là, on parle de Paris.
Voilà. Mm-hmm. Et donc, s'il y a un veto qui est mis en place ou une interdiction, c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'échanges commerciaux, etc. Et il faut regarder aussi cette situation en allant un peu plus loin. Qui dit s'allier avec des partenaires de la Caraïbe, notamment au niveau commercial, donc c'est-à-dire gagner un peu plus en autonomie. Et donc, ça veut dire, ça ouvre la porte, justement, à ce qu'un de ces jours, la Guadeloupe et la Martinique décide, ben, nous sommes suffisamment autonomes, donc nous n'avons pas besoin d'avoir vos importations, d'être dépendants, justement, de vos produits.
De vos produits, exactement. On va
voilà.
essayer de les produire.
Et, mm-hmm. et donc, nous pouvons demander notre indépendance, mm-hmm. chose que Paris ne voudrait pas perdre.
Mais il y a un hymne, non? Un drapeau, je ne sais pas si c'est...
Alors...
non, allons-y, il nous reste encore quelques minutes.
Alors, oui, la question du drapeau et de l'hymne,
oui.
ça ne fait pas longtemps qu'on a discuté de cela. Il y a une révision constitutionnelle de 2003 qui permet les collectivités territoriales donc, de faire ce travail-là, ce que la Martinique a commencé à faire. Donc, elle a... son drapeau, elle a son hymne, elle a demandé à ce que le créole soit reconnu en tant que langue officielle à côté du français. Mm-hmm. Là, je suis un peu plus dubitative là-dessus, puisque si on regarde le cas de la Corse a essayé de faire la même chose par rapport à la langue corse, mais ça n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Pour la Guadeloupe, ce n'est pas encore le cas.
OK.
Et c'est là, justement, que je reviens un peu à cette question de l'évolution institutionnelle. La Guadeloupe est un département, donc dépend à 100% donc de toutes les décisions liées à Paris. Donc elle ne peut pas, par exemple, prendre des décisions concernant certains aspects de la vie politique et économique sur le territoire. Au niveau de la Martinique, que ce soit au niveau de l'éducation, mm-hmm. Du développement, il y a moyen pour ce territoire-là de prendre un peu plus de décisions. Mm-hmm. Et donc là, justement, il y a eu un congrès le 7 juin de cette année en Guadeloupe qui demandait à ce qu'on travaille sur cela, parce que en 2003, on avait déjà posé la question aux Guadeloupéens, est-ce qu'ils voulaient la réunification de deux institutions en une seule, donc qui permettrait justement le passage de département à collectivité. Ça a été refusé. D'ailleurs, c'est ce sur quoi je travaille dans le cadre de ma thèse. Mmh. Et là, ils veulent redemander à Paris à ce qu'on puisse réorganiser cette consultation populaire. Sauf que moi, je constate qu'il y a des divergences au sein de la classe politique. Certains disent que, bon, on se donne 6 mois, donc à la fin de l'année, pour voir qu'est-ce qu'on va proposer et donc de présenter une consultation populaire à la population. D'autres disent qu'il faut plus de temps. Certains ne sont pas forcément d'accord à ce qu'il y ait une évolution institutionnelle. Voilà, il y a énormément
de débats même à l'intérieur de la société.
Oui, autour mmh. de ça, oui.
Michel Martineau, je veux qu'en une minute,
oui.
Les Québécoises et Québécois montréalaises, Montréalais qui sont en train de passer autour de nous, là,
oui.
Qu'ils doivent savoir quoi de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. En quoi ils sont... Quand ils vous voient passer, quand ils voient cette communauté, qu'est-ce qu'ils doivent garder? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? En une minute.
En une minute.
Oui.
je dirais tout simplement que nos territoires, d'un point de vue visuel, oui, nous avons de très belles plages, le temps est vraiment
ça, c'est
agréable.
La carte postale.
Mmh. Voilà. Mais nous avons des réalités... auxquels nous devons faire face tous les jours. Nous n'avons pas accès forcément à l'eau. On a un hôpital qui n'existe pas et qui ne fonctionne pas. Il y a des problématiques qui datent depuis des années qui n'ont pas été réglées. Il y a la question identitaire qui est vraiment au centre des discussions et des débats dans nos territoires, où on se pose encore la question de savoir qui l'on est. Et mine de rien, c'est quelque chose, ce sont des thématiques qui se rejoignent aussi au niveau du territoire québécois avec la question de l'indépendance, du nationalisme. Donc, de ne pas regarder ces régions-là comme étant...
juste des destinations touristiques.
Des destinations touristiques. Mmh. Il y a des problèmes qui sont là depuis des années et je les inviterais justement à s'attarder un peu plus là-dessus, notamment par exemple en regardant mon blog mmh. et en faisant des recherches complémentaires.
Merci beaucoup Michel Martineau.
Merci,
je rappelle encore, avec ce blog Identité Caraïbe, et puis vous le trouvez sur Instagram. Mon nom est Cyril Écoile.